Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, dans votre consommation au quotidien, si vous cherchez à être de plus en plus responsable. En tout cas, je trouve, en tout cas autour de moi, qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de consommer bio, d'être plus responsables. Et aujourd'hui, on va parler de local et comment, quand on vit en ville, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, on peut avoir un impact très fort. D'abord en mangeant, évidemment, en consommant des produits qui sont bien produits, donc par exemple bio pour ce qui concerne l'alimentaire, mais aussi local, voire en réutilisant des produits déjà existants. Bref, on va explorer tout ça avec Elisabeth Laville, qui est la fondatrice d'Utopie, qui est un cabinet qui accompagne les marques depuis 25 ans sur une plus grande responsabilité. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler des villes et de l'autonomie et de durabilité. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de plus en plus bio, en tout cas dans les villes. C'est pas forcément tout le monde et c'est pas forcément dans les supermarchés partout, mais enfin, il y a comme une tendance. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que ces produits-là, ils peuvent venir de très loin. Souvent, je cite cet exemple de Wall & The Moon où je vois des produits. Donc, il y a une boutique hyper connue pour être bio, donc il y a tous les étrangers, etc. Mais n'empêche que les produits viennent du Guatemala ou de je ne sais où. Donc, c'est pas très très responsable. C'est pas, non, ça rentre pas dans le cadre du développement durable. L'autonomie alimentaire de Paris, elle est ridicule. En quoi c'est important que de changer ce paradigme, en fait?
Alors, c'est important pour plein de raisons. C'est important déjà parce que, en raison de ce que tu évoquais, c'est-à-dire que si on consomme des produits qui sont supposés mieux-disant pour l'environnement, typiquement biologique, etc., dans le mode de production, mais qu'on les transporte, et notamment par avion quand c'est des produits frais, depuis l'autre bout du monde. Et quand je parle de produits frais, ça peut être aussi bien des fruits et légumes que des fleurs, hein, parce que les fleurs sont beaucoup importées par avion. Ça n'a pas de sens. En tout cas, du point de vue de l'environnement, qui est l'intention initiale, ça n'a pas de sens, même si en fait on voit que les gens consomment plus bio pour la santé en réalité que pour l'environnement. Mais en tout cas, cette question d'autonomie alimentaire, elle a plusieurs impacts. Elle a donc les impacts environnementaux, le fait que, enfin, d'autonomie alimentaire ou d'autonomie tout court d'ailleurs, parce qu'on parlera peut-être aussi des productions industrielles. Donc il y a l'aspect environnemental, l'impact environnemental, y compris l'impact environnemental local. Donc il y a les émissions de CO2, mais le trafic sur les routes, les accidents sur les routes, si, et ce qui est le cas de manière croissante, les territoires se transforment en plateformes logistiques où à longueur de journée, des camions qui exportent certaines denrées croisent des camions qui importent ces mêmes denrées parfois. Ça génère aussi toute une série de nuisances locales, hein, le bruit, la pollution, les émissions de diverses particules toxiques, etc. etc. Évidemment, l'aspect environnemental. Par ailleurs, il y a un autre point qui est la perte de lien social entre les gens qui produisent et ceux qui consomment sur un même territoire. Donc ça, c'est aussi un sujet. Et puis, il y a un autre sujet qui est la résilience économique. C'est-à-dire, plus un territoire est dépendant de l'extérieur, y compris pour des choses aussi basiques que l'alimentation, plus il est vulnérable, au fond, au fait que si, à un moment, pour le transport devient trop cher, il y a un problème avec la source d'approvisionnement, on est complètement démuni. En gros, on a une autonomie qui est ridicule. On ne tient même pas 24 heures. Il n'y a qu'à voir quand il y a des pénuries d'essence ou de certaines denrées alimentaires pour des raisons X, Y, Z. C'est la panique. Les gens stockent de l'eau.
Et,
bon, voilà.
D'ailleurs, peut-être pour rappeler le chiffre, parce qu'on vient de vérifier ensemble, mais de la dépendance l'indépendance alimentaire de Paris, c'est combien c'est...
Alors, l'autonomie alimentaire de Paris, dans l'étude qu'on a faite, nous, sur le sujet qui classe, en fait, c'est les aires urbaines, hein, d'ailleurs, c'est pas Paris au sens strict. Paris, si je la vérifie, c'est 1,27, ce qui plaçait la ville en 69e position sur 100. Et je crois que j'ai eu un débat l'autre jour avec Jean-Louis Missica qui disait, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a quelques décennies, c'était 50%. Donc en fait, on est tombé très très bas. Alors lui, je pense qu'il parlait plutôt de Paris intramuros, cela dit. Mais, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça, c'est le chiffre 1,27%, c'est sur les villes. Le taux d'autonomie moyenne des aires urbaines en France sur l'alimentaire, on va en reparler peut-être, qu'on avait mesuré, c'est 2,1%. Donc c'est vraiment pas très très haut. Et les villes les plus hautes, genre Avignon, je les ai sous le nez, la Valence, Nantes, etc., sont entre 6 et 8%. Donc c'est pas énorme non plus, hein, celles qui sont les plus élevées. On va en reparler après. Mais Paris, si on regarde l'autonomie fabricante en général, c'est-à-dire sur tout ce qui est consommé, après on va dire, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ? Autonomie alimentaire, c'est tout ce qui est consommé en alimentation sur le territoire de l'aire urbaine de Paris. Quel est le pourcentage de tout ça qui vient de cette même aire urbaine ? D'accord ? Donc c'est pas que les fruits et légumes frais, c'est pas que les fruits et légumes à la cantine, dans les cantines scolaires, c'est y compris les produits transformés, les produits surgelés, ce qui est consommé dans les restaurants, etc. Donc c'est effectivement 1,27% pour Paris, 2,1% en moyenne, et même 8% pour Avignon, rien du tout. Donc la question, et on en reparlera, c'est pas est-ce qu'on peut tout relocaliser, parce qu'on est tellement loin que franchement ça me paraît plus trop le sujet. Non. La question c'est est-ce qu'on peut relocaliser un peu, en sachant qu'à chaque fois qu'on relocalise un peu, on regagne des emplois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est important aussi, on regagne du lien social, on regagne de la performance environnementale et on regagne un peu de résilience économique si toutefois il y a un problème. Et sur donc le, parce que cette question ne se pose pas que sur l'alimentation, si on regarde tout ce qui est consommé à Paris, tout ce qui est consommé en moyenne dans une aire urbaine, quelle est la part de tout ça qui vient de la même aire urbaine ? Alors Paris, là pour le coup, est en tête du classement qu'on a fait, et le taux niveau d'autosuffisance est 8,7%.
Ça reste ridicule.
Donc ça reste, c'est encore une fois, sur les deux classements, on voit que celui qui est en tête, il est en gros à 8%. Donc oui, c'est pas énorme, et ça dit que la marge de manœuvre, elle est importante. Et on a encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup beaucoup de choses à gagner, à relocaliser un peu. Nous, on dit pas qu'il faut relocaliser, passer à 100%. On dit à chaque fois qu'on relocalise, mettons 10% de ce qu'on consomme, on gagne sur tous les différents volets que j'ai évoqués tout à l'heure.
Alors en fait, on pourrait envisager deux choses. Il y a ce mythe un petit peu en ce moment du Parisien qui part à la campagne. Donc on pourrait imaginer que c'est les gens des villes où il va y avoir une décentralisation un peu quelque part, où les gens vont partir des villes et aller à la campagne. Donc se rapprocher finalement des producteurs, ça peut être une manière d'envisager les choses. Ou effectivement de rapprocher ou de reconnecter des producteurs locaux avec... Mais est-ce que si on rapproche des producteurs locaux, pardon, excuse-moi, j'ai réfléchi en même temps que je pense, mais en même temps que je parle, est-ce que ça va pas justement générer une sorte d'agriculture un peu intensive autour de Paris, ce qui est pas forcément très positif non plus, si ?
Alors, sur le fait que les urbains aillent vivre en ville, en campagne, pardon, si on sort de la problématique parisienne, la tendance, elle est à l'inverse de ça. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est plutôt les ruraux qui vont dans les villes, parce que c'est là qu'il y a la richesse, c'est là qu'il y a la consommation, c'est là qu'il y a une meilleure qualité de vie, un accès à plein de services, les jobs, etc.